8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le youtubeur Gaspard G.
Bienvenue à vous et bonjour Gaspard Guermont-Pré.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous. Une vidéo vue par des millions de personnes. Une vidéo que vous avez imaginée comme une bouteille à la mer pour décrire une génération, dites-vous, de morts vivants, celle des étudiants en période de Covid. Cette vidéo postée le 24 janvier a suscité une avalanche de réactions. Réactions aussi du Premier ministre Jean Castex et surtout... surtout des centaines et des centaines de jeunes gens qui vous répondent et se racontent. Tout d'abord, Gaspard Guermont-Pré, votre objectif n'est pas d'être leur porte-parole, mais simplement de relayer, d'alerter.
En effet, oui, mon rôle en tant que youtubeur, c'est pas de prendre la place des syndicats étudiants qui font un travail formidable depuis le début de la crise pour défendre les droits les plus fondamentaux des étudiants. Mais en effet, comme vous l'avez dit, davantage d'alerter, d'utiliser les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des super outils pour ça. L'alerte urgente de la précarité pour certains, mais de l'isolement aussi pour tous. Et pour revenir sur cette histoire de relais, ce qui est bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne choisit pas vraiment ce qui va devenir viral, de quel sujet on parle finalement. C'est pas comme un média un peu plus traditionnel. Les gens choisissent de relayer ou de ne pas relayer. Et ici, vraisemblablement, il y avait un point puisque le sujet était bien relayé et la détresse étudiante aujourd'hui est partout, même sur votre antenne.
Évidemment, et on va écouter de larges extraits justement de ces témoignages. Mais tout d'abord, quel est le point commun entre tous ces témoignages que vous continuez à recevoir? Quel est l'élément qui les relie?
Un sentiment d'abandon, un manque de reconnaissance. Peut-être un déjà de la part de la société. Parfois, on entend sur les plateaux de télévision ou dans les dîners de famille, nos aînés qui vont nous dire « Vous n'avez pas vécu 39-45, vous n'avez pas vécu 14-18. »
Vous l'entendez souvent, cette remarque.
Oui, on l'a entendu beaucoup.
Comment vous réagissez?
Pour moi, c'est pas un argument, déjà parce que eux n'y étaient pas, et puis pour la plupart, et aussi parce que on vit, nous, dans notre génération, des choses que nos aînés sont très loin d'avoir vécues aujourd'hui. Et puis, pour revenir à votre première question, ce qui ressort principalement, c'est l'ampleur des dégâts, et ce, à toutes les échelles. Ça va de, mais vous allez passer des extraits, j'en suis sûr, de la maman étudiante qui a 25 ans, qui vit avec dans un appartement du Crous, et ça, c'est aujourd'hui, les parents étudiants en France, c'est 110 000 personnes quand même, 110 000 étudiants. Mais ça va aussi à peut-être plus petite échelle, aux 700 000 bacheliers qui n'ont pas pu passer les épreuves du bac en 2020.
Alors justement, depuis cette vidéo, Gaspard Guermont-Pré, vous en avez publié une autre avant-hier avec ces témoignages que vous décrivez, une quinzaine d'étudiants qui se racontent. On va écouter quelques extraits lors de cet entretien et je vous propose d'ores et déjà d'écouter Nina, 18 ans.
Je m'appelle Nina, j'ai 18 ans et au premier confinement, j'étais dans le sud chez mes parents à Gap. Et du coup, le lundi soir, il y a l'annonce du confinement. Et dès le lundi soir, j'ai commencé à plus dormir, à faire des crises d'angoisse toutes les nuits, à être malade. Et à partir de là, ça a été un peu une descente aux enfers, on va dire. J'ai perdu du poids. Pour régler les crises d'angoisse que je faisais la nuit, on m'a mis sous médicaments. À 17 ans, on m'a mise sous anxiolytique et antidépresseur. Donc, c'était pas facile. Et à la fin du premier confinement, on a décidé d'annuler mon inscription parce que j'étais pas en capacité de partir.
Alors, ces étudiants comme Nina qui témoignent face à votre caméra, Gaspard Guermont-Pré, ils parlent de leurs difficultés, sans tabou d'ailleurs, y compris les difficultés psychologiques. C'est pas toujours évident d'en parler, c'était un besoin pour eux.
Oui, je crois. Certaines personnes, voyez, avant le confinement, n'allaient déjà pas nécessairement bien. Mais c'est pas le cas de Nina. Nina, elle est très très bien avant ce confinement. Et aujourd'hui, cette ado qui a 17 ans, on lui annonce qu'elle passera pas le bac, qu'elle n'aura peut-être pas cette rentrée universitaire en physique, contrairement à son frère, contrairement à sa sœur, qui ont pu vivre ces rentrées-là. Aujourd'hui, elle vit une certaine incertitude qu'on peut pas lui enlever. Ouais, on peut se poser véritablement la question des conséquences psychologiques pour cette génération malade.
Exactement, l'incertitude, la solitude, l'enfermement devant un écran, l'incompréhension aussi devant la situation que vivent beaucoup d'étudiants, tout cela nourrit un cercle infernal que décrit dans votre vidéo Camille, 18 ans, étudiante en sciences et vie à l'Université de Paris. On l'écoute.
Même aujourd'hui, je me retrouve sans amis en fait. Quand tu parles à quelqu'un sur une application, t'es derrière un nom quoi, une photo. Moi surtout, j'ai témoigné parce que en fait, ça m'a permis de me libérer un peu parce que depuis le premier confinement, enfin, ma tête elle est toute en ébullition quoi. Jamais posé des mots sur ce que je ressentais.
Camille, c'est important ce qu'elle dit. Je n'ai pas posé des mots sur ce que je ressentais. La solitude, quand on parle de génération sacrifiée, on pense à la vie sociale, amicale, amoureuse qui se construit maintenant.
En effet. Non, on a l'impression, à l'entendre, que ouais, ce manque d'humanité, ça fait presque épisode de Black Mirror, finalement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui, continuer d'enseigner derrière des ordinateurs, c'est devenu une solution. Mais c'est pas vrai. C'est l'essentiel, c'est pas simplement d'enseigner. Comme vous l'avez dit, c'est pas une solution de remplacement. Actuellement, c'est du système D, c'est du bricolage. Et peut-être aussi qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que l'essentiel des années universitaires? Est-ce que ça se résume dans les cours qu'on enseigne, ou alors est-ce que c'est dans l'expérience? Ben moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, Sonia Mabrouk, mais pour moi, mes années universitaires, ça a été l'expérience que j'ai pu vivre les premières fois. Et on peut se poser de ce vecteur social hyper important que sont les années universitaires. Qu'est-ce qui va en devenir de ces
étudiants-là ? C'est très important ce que vous dites, Gaspard Guermont-Pré. Et cela, j'allais dire, quel que soit le milieu social qui est le nôtre, parce que bien sûr, pour les plus défavorisés, c'est une double peine que de vivre cette période avec de grandes difficultés financières, parfois même une difficulté pour manger. On a vu ces files d'attente pour des distributions alimentaires qui sont révoltantes. Mais dans votre vidéo, il y a aussi des étudiants moins précarisés et qui souffrent aussi et tiennent à témoigner. Écoutons Alice, 20 ans, étudiante en business management au King's College de Londres.
Moi, je sais que j'ai de la chance, je suis quand même très privilégiée. Mes parents n'ont pas perdu leur boulot. Il n'en reste pas moins que, voilà, je ne sais pas quelle aura la valeur de mon diplôme, parce que tous mes examens sont en ligne. Je n'ai jamais vu mes profs, je ne vois pas mes camarades de classe.
Vous parlez de cette diversité d'étudiants. Il y a bien sûr, c'est intolérable ce qu'on voit dans les images et cette réalité, mais il y a aussi d'autres étudiants bien partis à l'étranger qui reviennent avec finalement un cursus arrêté, stoppé, anesthésié.
Oui. Et qui continue en fait en distanciel, mais alors avec le décalage horaire, avec d'autres problématiques, que encore une fois, peut-être que certains ne vivent pas tous la précarité, c'est vrai, mais tous vivent en tout cas, aujourd'hui tous les étudiants trans, c'est sûrement ça le point commun, vivent cet isolement, oui.
Et c'est pour ça que vous ne voulez pas être leur porte-parole, Gaspard Guermont-Pré, parce que vous avez eu parfois des réactions d'incompréhension, y compris sur les réseaux sociaux, de certains qui vous disent « mais vous ne vivez pas tant de difficultés, vous n'avez pas apporté ce message et notre message, mais vous, en fait, c'est juste un relais ».
Absolument. Mais la légitimité, en effet, elle s'est posée pour moi aussi. À la limite, j'ai fait HEC Montréal. Quelle légitimité je peux avoir à parler de détresse étudiante ? Mais je pense que la légitimité, elle vient de la communauté étudiante qui a massivement relayé cet appel. La légitimité, elle se décrète pas seulement sur notre milieu, sur notre école. Elle se définit par la base de nos propos. Et sur ce point, je crois que je peux m'exprimer
évidemment,
pour les étudiants.
Et on est heureux de vous accueillir sur ce sujet. Et on accueille généralement à ce micro, mais pas seulement, des responsables politiques. Justement, à votre place, Gaspard Guermont-Pré, vous les avez entendus. Vous avez eu cette phrase il y a déjà quelques temps d'Emmanuel Macron qui avait dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Depuis, il est vrai qu'il y a une attention un peu plus portée sur les jeunes et les étudiants. Comment vous réagissez aujourd'hui ? La question a été posée hier à Bruno Le Maire. Et justement, on lui a demandé quel message il vous transmettait. Peut-être l'avez-vous entendu ?
Oui, j'ai écouté en effet la question que vous avez posée à Bruno Le Maire. Moi, je trouve qu'actuellement, il y a une espèce de vacuité dans les propos du gouvernement sur les différents plateaux télé. On a un mélange entre un message compassionnel et motivationnel. C'est bon, on va tous le faire, on va tous en sortir. Moi, la compassion, je la laisse à la société, à nos aînés, pour la communauté étudiante. Maintenant, de la part du gouvernement, c'est vrai qu'on attend de l'action.
Et elle n'est pas encore venue, selon vous ?
On a eu les trois annonces de Paris-Saclay, en effet, d'Emmanuel Macron. Le chèque psy, typiquement, pour revenir dessus, c'est une mesure pansement. Ça vient pas résoudre le problème de fond. C'est simplement une petite tape dans le dos pour faire en sorte que la pilule passe un peu mieux. Mais on ne résout pas ce problème qu'aujourd'hui, notre génération est malade.
Une petite tape dans le dos alors qu'il faut tellement plus. Il faut sauver des vies, mais la vie en elle-même, a-t-on oublié ce qu'elle signifiait vraiment ? Écoutons, et vraiment ce témoignage en particulier, j'appelle nos auditeurs à l'écouter, c'est Damien, 19 ans, en étudiant en L2 gestion en Panthéon-Sorbonne.
Peut-être que cette lutte pour la pandémie et pour sauver des vies va nous coûter plus cher que la pandémie elle-même. Depuis 10 mois de la situation sanitaire, on a essayé de tout faire pour sauver des vies. Mais aujourd'hui, ça fait 10 mois qu'on vit de manière atrophiée et je pense que ce qui serait vraiment important maintenant, c'est de sauver la vie tout court.
Sauver la vie. Évidemment, ouais. Sauver les vies, mais sauver la vie. Et d'ailleurs, quel que soit qu'on soit étudiant, jeune, parce que vous ne voulez pas aussi hiérarchiser les souffrances. Hein. Ça a été beaucoup dit. Il y a aussi tous ceux qui souffrent dans notre société. Vous n'êtes pas du tout dans ce cadre-là.
Non, en effet. Oui, mais c'est très beau, sauver la vie, c'est important. Et puis aujourd'hui, le débat mérite d'avoir lieu auprès de la communauté étudiante, mais plus largement aussi. Des vies prolongées ou des vies gâchées, c'est cet article des Échos de Gaspard Koenig qui a fait un peu polémique, mais avec ce chiffre que j'aimerais reciter, qui dit, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, parmi ma classe d'âge, 15 à 44 ans, le nombre de patients décédés sans comorbidité depuis le début de l'épidémie dans notre pays est de 60. Alors, si on actualise ce chiffre et qu'on lui donne un peu plus de fond, il est monté à 66 aujourd'hui. 200 si on compte avec et sans comorbidité pour les victimes du Covid en France de 15 à 44 ans. Et ce que Damien disait aussi plus tard, c'est qu'il reprenait en partie cet article, sur la même tranche d'âge depuis le début de la crise, on compte environ 10 000 arrêts cardiaques pardon, et plus de 20 000 AVC. Alors ces chiffres, ils sont décriés pour certains, ils sont critiquables, mais au moins ils ont vocation à remettre en perspective ce qu'on fait vivre aujourd'hui à la jeunesse de notre pays.
Bien, merci Gaspard Garmonpré. Merci d'avoir aussi nous avoir permis de relayer ce témoignage. Et puis il y a aussi peut-être une vidéo à venir, hein, parce qu'il y a des difficultés, les rêves aussi de ces jeunes que vous suivez. Merci encore. Et permettez-moi, Mathieu, peut-être une phrase qui me vient à l'esprit. C'est une citation de l'immense Jean-Claude Carrière qui nous a quittés. Il avait dit, le rêve, disait-il, c'est la vraie victime sur le temps, la vraie victoire sur le temps. Donc victoire à venir, évidemment, pour vous, la jeunesse et tant d'autres. Merci Gaspard Garmonpré.